Nous allons retrouver tout de suite Alain Cogent. Alain Cogent qui est né et qui a grandi en Bretagne avant de s'installer à Paris, où il a fondé en 2001 une célèbre chaîne de restaurants, les restaurants Cogent. Il en a eu jusqu'à 35 à Londres également. Et durant près de 20 ans, eh bien, il va se consacrer corps et âme à son entreprise. Et aujourd'hui, il nous le dira, on aura sans doute l'occasion d'en parler plus tard, il place son énergie dans de nouveaux projets. Alain Cogent, merci d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir et merci de m'inviter.
Ben c'est moi qui vous remercie parce qu'on aura l'occasion, grâce à vous, tout de suite de parler de votre livre, hein, sorti il y a peu, intitulé « Nourriture céleste ». C'est paru chez Mama Édition. Et puis évoquer aussi avec vous, brièvement en tout cas pour démarrer, le thème de la semaine, la routine. Alors c'est un mot, moi j'ai le sentiment qu'il n'est pas forcément dans votre dictionnaire, je me trompe?
Non, vous ne vous trompez pas, effectivement, j'ai pas connu, en tout cas pendant tout ce parcours qui a duré une vingtaine d'années chez Cogent, c'est vrai que j'ai pas connu ce qu'on appelle la routine. En même temps, c'est drôle parce que on faisait la même chose tous les jours, c'est-à-dire préparer des produits, ensuite les servir à midi, recommencer le lendemain. Donc ça peut paraître une sorte de routine. Et en même temps, je n'ai pas connu ça un seul jour, un seul instant. Pour moi, c'était nouveau tous les jours, même s'il y avait de recul, bien sûr. Ben, c'est le métier de restaurateur, mais on faisait la même chose, enfin les mêmes produits, le service à midi, etc. etc. Mais j'ai pas connu la routine, je dirais même du tout, même le mot m'était étranger, vous voyez.
Ah oui.
Qu'on en parle là, j'ai pas connu ça, je sais que ça existe, mais en tout cas pendant cette expérience qui a duré une vingtaine d'années, je n'ai pas connu la routine.
Et comment vous avez fait pour casser précisément cette routine malgré tout, hein, parce que voilà, les journées dans ces métiers-là peuvent parfois se ressembler. Comment vous avez fait pour tendre vers d'autres univers, peut-être d'autres rêves? Mais là, je parle d'une période qui doit se situer même en amont, hein, de celle où vous avez créé votre affaire, vos affaires.
Encore une fois, avant de créer les restaurants, j'ai toujours beaucoup travaillé, j'ai été passionné par mon boulot, j'ai toujours été passionné par le travail, donc c'est quelque chose, franchement, que j'ai pas connu, non.
Alors, je me suis plongé avec beaucoup d'intérêt dans votre livre, Nourriture céleste, qui est sorti il y a peu. À la page 29, j'ai tout de même relevé, alors après on passera à autre chose, hein, je vous rassure, mais j'ai quand même relevé deux, trois petites phrases amusantes. Vous parlez beaucoup de vous dans ce livre, évidemment, c'est une autobiographie. Vous racontez votre parcours et puis vous parlez de votre enfance également, avec des moments touchants, notamment à propos de votre chat, Minou, comme vous l'appelez.
Oui, Minou.
Minou, oui. Voilà. Et là, vous écrivez... En me levant le matin, mon premier but était d'aller voir mon chat et de passer du temps avec lui. Le sien était sûrement en grande partie le même. On se retrouvait tous les matins et on était heureux. Bon, après, il y avait l'école, évidemment. Et puis quand, en fin d'après-midi, le bus scolaire me ramenait devant chez moi, dans les 5 secondes qui suivaient, je le voyais arriver vers moi, d'un petit pas pressé, le museau en avant, avec son air tout content. Il connaissait mon heure de retour à la maison. Je pense qu'il m'attendait. Voilà.
Oui, c'est vrai. Et Minou, c'est vrai. Bon, j'ai vraiment eu une histoire. C'est peut-être ma première histoire très forte. J'ai eu une. On peut dire que c'est une histoire d'amour. J'ai eu ce chat quand j'avais 5 ans. Il est parti quand j'avais 18 ans et j'ai vécu une sorte d'histoire d'amour avec lui. C'était quelque part mon meilleur ami et il m'a beaucoup apporté, m'a énormément apporté.
Voilà, je trouvais que c'était un joli petit extrait sur une routine, celle-là que je qualifierais de positive.
Hein, voilà, ça c'est une jolie routine. Effectivement. Tout à fait, c'est vrai.
Dans ce livre, vous évoquez évidemment votre parcours, vous parlez de beaucoup de choses qui concernent à la fois votre métier, tout ce que vous avez fait en termes de business. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il y a des choses où on découvre cet univers pour celles et ceux qui ne le connaissent pas du tout. Voilà, c'est un peu Dallas, hein, par moment, en tout cas un univers assez impitoyable. Sauf que vous, Votre particularité, c'est une des raisons pour lesquelles aussi vous êtes connu, c'est que vous avez une façon d'appréhender les choses très différente. Finalement, le profit, en tout cas, n'était pas apparemment votre moteur premier.
Non, c'est clair. Pour moi, l'entreprise, c'était, j'oserais dire, ça peut paraître curieux, mais c'était tout sauf un business. C'était pour moi davantage un moyen d'expression qu'un business. Certes, c'était une entreprise, il fallait qu'elle soit rentable, sinon ça se casse la figure. Mais jamais je lançais Cogent en me disant « tiens, je vais gagner de l'argent ». Je ne peux même pas dire que c'était même pas mon dernier moteur, c'était pas un moteur du tout. Du tout, du tout. C'était un moyen d'expression. J'étais passionné aussi, bon, parce qu'on faisait. C'était des bons produits. Vraiment, on avait cette réputation-là de faire des très bons produits. Mais j'étais surtout passionné par les équipes. J'ai veillé sincèrement, ça a été ma priorité pendant toutes ces années-là, c'était de veiller que les gens soient heureux, que les salariés soient heureux. J'ai veillé à cela, je dirais, 7 sur 7 du matin au soir. C'était ma priorité numéro une, dès que j'ouvre un œil le matin, juste au moment où je fermais les yeux. Ça a été, au niveau humain, ça a été véritablement une histoire...
Une vraie aventure.
Ah oui.
Une vraie aventure.
Ah oui, oui, oui. Ça a été humainement... Je le dis parfois quand je rencontre des gens, des amis, je dis au niveau humain, ça a été un état de grâce, un véritable état de grâce.
Et d'ailleurs, vous l'écrivez dans le livre par moment, mais on n'a pas le temps malheureusement, parce que le temps passe si vite ce soir d'aller trop avant là-dedans. Mais vous le dites, certains de vos collaborateurs qui vous quittent, d'ailleurs vous les prévenez, ils vont chez une concurrence, où ils seront peut-être un peu mieux payés, etc. Mais vous faites attention, et en effet, ils ne retrouvent jamais les conditions qu'ils ont vécues chez vous. Voilà.
Et ils trouvent souvent la réalité de la vie professionnelle, c'est-à-dire la dureté.
D'autant que vous avez reversé 10% de vos résultats annuels à une fondation que vous avez créée qui s'appelle Nourrir, Aimer, Donner.
Oui.
Qui soutient des projets notamment pour l'accès à l'eau, pour évidemment la nourriture aussi pour des populations très défavorisées sur la planète.
Oui, c'est pour moi, en fait, je n'aurais pas créé l'entreprise s'il n'y avait pas eu la fondation, ou du moins un principe de redistribution. C'était un principe de base dès le départ. Si on gagne de l'argent, on en redonnera une partie et le plus possible. C'est comme ça que sont nés effectivement des projets, pas un peu partout, mais dans pas mal d'endroits quand même, notamment à Calcutta, où on a lancé un très joli projet.
Et vous avez vraiment, Alain Cogent, reversé la moitié de ce que vous avez encaissé quand vous avez revendu votre affaire à vos employés.
C'est la moitié. Ouais. C'est l'inverse qui m'aurait semblé incroyable. Voilà.
Bon. Voilà. Et puis on va arriver au sujet qui est vraiment le sujet central de votre livre. C'est votre mère. Vous attaquez, le premier chapitre lui est consacré. Il est très touchant d'ailleurs. Il y a des moments où j'ai eu le sentiment, ça m'a fait penser moi au livre de ma mère d'Albert Cohen, où par moments vous avez ce rapport extrêmement émotionnel, extrêmement fort à votre maman, décédée en 2013. D'ailleurs, il y a eu la phrase « Ma mère est morte en 2013 ». Et ce deuil, cette mort qui vous a touché de plein fouet, la même année d'ailleurs que le décès de votre père, aussi qui a disparu
deux mois plus tard, ma mère.
Oui, votre maman un peu après votre
père. Deux mois plus tôt, tout à fait. Ouais.
Et là, vous avez tenté de trouver de l'aide et vous êtes allé voir un médium.
Ah oui, ça a été, ça a été une rencontre et.
Comment ça se fait? Quelle a été la motivation? Pourquoi vous êtes allé voir un médium à ce moment-là?
Alors, ma mère, vraiment, j'adorais ma mère plus que tout au monde. Ma mère, ma mère n'était faite que de bonté, de gentillesse, de bienveillance. C'était incroyable. Vraiment, elle avait cette réputation-là, mais à juste titre, elle était tellement attentive aux autres. Elle pensait aux autres avant de penser à elle. Elle a passé toute sa vie comme ça. Et quand elle est partie devant mes yeux, brutalement d'un AVC, c'est pas possible. Elle était un peu âgée, mais ça me paraissait impossible.
Enfin, c'était trop brutal.
Trop brutal. Voilà. Et dès le lendemain de l'enterrement, j'ai eu l'idée d'appeler un très grand médium, un type. Un gars incroyable, il y a en Bretagne, absolument incroyable, dont il ne connaissait ni mon nom, ni mon adresse, ni rien, rien, rien du tout sur moi. Et il m'a donné rendez-vous, hélas, 18 mois plus tard, presque. Je lui ai demandé un rendez-vous en urgence, il me dit oui, dans 18 mois, ça me paraissait complètement dingue. Et bon, j'ai insisté, bon, mais non, rien à faire, 18 mois. Et là, ça a été, donc 18 mois plus tard, je vais le voir, ça a été une révélation incroyable. Et j'ai eu des contacts avec ma mère, mais inouïs. J'ai compris de ce jour-là que la mort n'est que physique, qu'une vie continue immédiatement après. J'ai compris que les personnes disparues ne partent pas dans le néant, mais restaient proches des gens qu'elles aimaient sur Terre. Le lien d'amour ne s'efface pas avec la mort. J'oserais dire que j'en ai eu la preuve. J'ai compris que la mort, telle que nous l'entendons généralement, n'existe pas réellement. Elle n'est qu'un changement de dimension, changement d'état, de réalité. Ça prendrait trop de temps pour vous raconter tous les exemples que j'ai, toutes les preuves que j'ai reçues. J'étais scotché, ça m'a tellement scotché, si je puis dire, que j'ai été voir un deuxième médium. Le premier s'appelait Alain-Joseph Belay, à Élian, près de Quimper. Et j'ai rencontré un autre médium à Paris, prodigieux également, s'appelle Henri Vigneault. Et les contacts que j'ai eus avec lui étaient incroyables aussi. Ça serait long, ça prendrait une heure pour vous.
Oui. Vous les racontez, hein, vous les racontez largement dans le livre. Alors c'est vrai que c'est pas très cinématographique, hein, faut pas s'attendre à des choses, il n'y a pas de tape qui tourne, il n'y a pas, etc.
Bien sûr. C'est des messages.
Et c'est vrai que ce que vous écrivez est très troublant, parce que vous vous rendez bien compte que pour peut-être beaucoup de celles et ceux qui écoutent, ça semble, voilà,
ils n'y croient
pas. Enfin, voilà.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que c'est très étonnant ce que vous racontez.
Oui. En fait, je pense que si je devais résumer, je dirais que le plus important, enfin ce que je crois avoir compris, parce que évidemment j'y connaissais rien, c'est la survie de la conscience. Quand on meurt, évidemment le corps meurt, mais pas la conscience, elle connaît même pas d'interruption. Elle n'est pas logée dans le cerveau qui lui disparaît, bien sûr, avec le corps. C'est incroyable, et moi ça m'a... C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en fait. J'ai écrit ce livre pour rassurer les gens qui connaissent le deuil. Parce que je pense que pendant qu'on est vivant, chacun d'entre nous, la chose la plus dure à vivre pendant qu'on est vivant, c'est la perte d'un être cher. Une maman, un père, un frère, une sœur, un enfant, il n'y a rien de pire. Et je pense que dans des cas de deuil, je dirais, difficiles, douloureux, ce qui était vraiment mon cas, je pense qu'un contact avec un être aimé disparu peut faire un bien inouï.
C'était une grande consolation. Enfin, c'est d'une grande consolation, toujours.
Et puis,
mais si vous me permettez, je vous arrête une seconde.
Je vous en prie.
Accepter la mort, finalement, comme une vraie fin, hein, comme une fin, j'allais dire, définitive, ou en tout cas accepter le mystère de la mort et de ce qui peut être ou pas la suit, ça peut être aussi une solution, vous pensez pas ?
Accepter la mort, oui, parce que de toute façon, c'est comme ça pour toutes les espèces et la nature, les animaux, les humains, les plantes, etc. Oui, c'est accepter la mort, mais tout en sachant que on part pas dans le néant. Ça, je l'ai vraiment appris, sincèrement. Je l'ai vraiment appris. C'est ce que j'ai retenu.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au fil du livre, en vous lisant, on navigue entre le visible et l'invisible. Il y a des moments, des beaux moments, il y a des moments poétiques. Je me suis posé la question en vous lisant également, toujours par rapport à votre mère, qui vous parle, qui vous dit des choses via les médiums. Oui. Des choses très simples, hein, c'est pas des grandes phrases. Enfin voilà, elle confirme des choses que vous pensez ou des hésitations peut-être que vous avez. Je me suis demandé si à écouter les paroles des disparus, hein, leurs opinions, etc. Est-ce que ça n'entame pas votre libre arbitre ? Est-ce que votre capacité à réfléchir tout seul, à prendre les décisions en toute liberté, n'est pas affectée par ça ?
Alors, je vous dirais du tac au tac, non, pas du tout. Et je par exemple, maintenant, je ne consulte plus. J'ai dû faire quelques contacts médiumniques avec trois médiums, dont je n'ai pas cité Yonel Del, qui est une très bonne médium aussi. Mais je ne consulte plus. J'ai eu tellement la preuve que je ne consulte plus. Ces médiums sont devenus des amis, d'ailleurs, mais je ne consulte plus, j'ai plus besoin, ça m'a beaucoup servi, et, mais je ne m'en sers pas comme guide ou comme boussole, ou non, je ne m'en sers pas, j'ai eu simplement j'espérais des preuves de survie, et ces preuves, c'était pas simplement coucou Alain, ne t'inquiète pas, je vais bien. Évidemment, coucou, t'inquiète pas, il y a une vie après la mort, c'est pas le genre de paroles que j'ai entendues. C'était des choses extrêmement précises et d'une précision dingue, et des choses que elle seule et moi pouvaient savoir. C'était pas des banalités, c'était des choses absolument inouïes. Dans le livre, je les raconte presque toutes.
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait troublant.
Ah oui. C'est pour ça que j'ai fait le livre. C'est...
Il nous reste malheureusement très peu de temps, Alain Cogent. Juste en quelques secondes, si je vous demande de garder, de nous restituer ce soir un seul souvenir de votre mère, un souvenir marquant qui vous reste en mémoire à tout jamais.
Ah, c'est... je ne m'attendais pas à la question, mais...
Je ne m'attendais pas à vous la poser. Non, c'est vrai.
Mais je dirais, le souvenir que j'ai, c'est toujours de son regard et son sourire, justement, bienveillant, tout le temps positif, tout le temps positif. Tout le temps positif. Voilà, c'est ce souvenir de son regard gentil, adorable, positif, bienveillant, encourageant et la bonté même, vraiment.
Merci beaucoup, Alain Cogent. Vous avez vu que le temps a passé fort vite. Hein.
J'en reviens pas. J'ai l'impression qu'on a démarré il y a 2 minutes. J'étais parti pour une bonne heure.
C'est ce que je vous ai dit. Oui, voilà. Je pensais qu'on ferait plus longtemps, mais malheureusement, on a une guillotine qui s'appelle les informations à 23h, c'est-à-dire dans plus de 40 secondes. Merci encore
en
à vous.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
C'était un plaisir de vous avoir sur cette antenne. Merci à vous. Je rappelle votre ouvrage Nourriture Céleste. C'est paru chez aux éditions Mama Édition. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée, Alain Cogent, et merci encore.
Merci.
Bonne soirée à vous.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.